Le troisième facteur influençant l'efficacité du CA, c'est le leadership. C'est pas toujours évident à mesurer la qualité du leadership.
Non seulement ça, c'est un sujet pas mal délicat.
Oui.
Pour la plupart d'entre nous, quand on nous demande si on veut une évaluation de notre rendement, on a tendance à dire qu'on invite le feedback, la critique constructive pour s'améliorer. Mais en pratique, on peut parfois être sensible ou vulnérable, on se sent mal compris, visé, on est sur la défensive un peu. Les personnes en poste de leadership, et ici on parle de la présidence et de la direction en particulier, ces personnes sont sous la loupe et partagent la responsabilité ultime du groupe. Si ça va mal et qu'on perçoit qu'il y a un problème, il faut avoir assez de respect et, dans le cas du leader, la couenne dure, pour mettre en lumière la situation. Il n'est souvent pas question de réforme complète, mais d'ajustement. Mais le leader a besoin d'assez d'informations sur la situation pour pouvoir ajuster ses comportements. Il est important de noter que les chefs de file peuvent être perçus comme de bons leaders ou non selon la situation. En d'autres mots, un individu peut sembler très efficace dans un poste de leadership X, mais pas si efficace dans le poste de leadership Y. Il y a des circonstances et des situations qui créent des conditions qui rendent presque impossible d'exercer un leadership efficace. Quoi qu'il en soit, s'il y a un problème au leadership, ça va coûter cher à l'organisme. Les conséquences peuvent inclure un roulement excessif au CA et à la direction, menant à une perte d'engagement, un manque de satisfaction, un moral à la baisse et, en bout de ligne, un manque d'efficacité au CA qui se répand par tout l'organisme et au-delà.
Alors, ceci étant dit, il y a certaines compétences ou habiletés souhaitables qu'on peut rechercher dans la présidence comme dans la direction. Est-ce que tu as des exemples?
Oui, bien sûr. Je peux vous en donner quelques-unes. La capacité de motiver, être serviable, aimable, avoir un bon sens d'humour, être sympathique, et en anglais, on dit « empowering », une personne qui habilite les autres, c'en est une. La capacité de créer une vision que tous peuvent partager et de l'aligner sur les orientations stratégiques de façon à ce que les membres du CA ont un sens de direction. La capacité de développer des relations efficaces avec les membres du CA et la direction, de promouvoir un milieu de travail sain. Et enfin, un autre exemple, la capacité de mener, d'être le premier violon, engagé, dévoué, collaborateur, capable de bien gérer les affaires contentieuses ou les sujets à controverse. Il est sous-entendu que le chef est un bon communicateur, mais les autres membres du CA ont quand même des responsabilités dans ce domaine. Par exemple, être respectueux dans les échanges verbaux et écrits, garder l'esprit ouvert dans les discussions, observer les lignes de communication établies entre le CA et la direction. Il y a plein de livres écrits sur ce sujet. À vous de créer une liste qui convienne à votre situation.
Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, des livres. Et puis, on n'est pas toujours conscient, par contre, de quoi on a besoin. Peut-être qu'on peut se le faire suggérer par d'autres.
Oui.
À part les compétences ou les caractéristiques particulières d'un bon leader, est-ce qu'il y a d'autres signes particuliers qui peuvent témoigner de l'efficacité de ce leader?
Oui, le plus souvent, l'efficacité du leadership semble remonter à ces quelques notions. Il est clair qui fait quoi. Plus c'est clair, plus sera positive la perfection d'efficacité des leaders. Il y a des bonnes pratiques de gouvernance au CA. Si le CA est bien impliqué à la planification stratégique, à l'auto-évaluation de son rendement et de celui de la société, le leader sera souvent bien perçu. La mesure dans laquelle les administrateurs ont l'occasion d'interagir avec le leader, ça vaut la peine de prendre le temps de bâtir de bonnes relations avec les membres de l'équipe, d'apprendre à les connaître et comment les appuyer. C'est aussi une question de partager l'information et le pouvoir. Et la continuité à la direction. Un roulement excessif donne l'occasion de tester le leadership du CA. C'est une responsabilité du CA entier, mais c'est le chef qui va en assumer les conséquences. En somme, un CA efficace est signe d'un leader efficace et l'inverse. Un leader efficace mène à un CA efficace.
Un autre facteur, c'est la culture du CA. De quoi s'agit-il?
Quand on parle culture du CA, c'est l'ensemble des attitudes, des normes sociales, des perceptions et des croyances qu'on tient pour acquises en ce qui concerne comment on fait les choses ici. Cette culture est partagée par la majorité des membres du CA, surtout s'ils ont un peu d'ancienneté, mais on n'est pas toujours conscient de la culture. La culture semble évoluer selon certaines influences. Par exemple, les pressions de l'extérieur d'agir d'une certaine façon ou d'adopter certaines pratiques, soit des bailleurs de fonds, les membres ou même les décideurs d'autres organismes des autres provinces ou du national. L'homogénéité du CA. Si les membres du CA ont à peu près les mêmes caractéristiques démographiques, par exemple, il y a de fortes chances qu'ils vont partager les mêmes attitudes et perspectives sur leur rôle et responsabilités. L'exemple des personnes clés de l'organisme, le président et la direction qui exercent une certaine autorité et qui ont beaucoup de contrôle sur les processus, leur style de leadership donne le ton. Les sous-groupes et les cliques qui se forment à l'intérieur du CA, ils sont importants parce que leurs attitudes et croyances sur les rôles et responsabilités, les pratiques qu'utilise le CA et même la position que ces cliques adoptent sur telle ou telle question peut avoir un impact sur ceux et celles qui ne font pas partie du groupe. En soi, c'est pas vilain, mais il peut y avoir un problème si les nouveaux venus se sentent à part ou s'ils exercent tellement de pouvoir qu'il est difficile de se faire entendre ou s'ils s'alignent systématiquement sur les questions à régler pour s'assurer que leur position est adoptée en réunion de CA.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer une culture malsaine?
Il est difficile de changer la culture d'un CA. Ça prend du temps, de l'effort et de la bonne volonté. Mais si le climat est malsain, s'il manque un esprit d'équipe ou si les différences ne sont jamais réglées, qu'il y a beaucoup de rancœur, le premier pas serait d'analyser ce qui se passe et de tenter de diagnostiquer les causes pour pouvoir aller de l'avant. L'auto-évaluation du CA donne une bonne porte d'entrée. Exposer les perceptions des membres du CA, les analyser et en discuter va aider à bâtir l'esprit d'équipe, à créer des communications plus ouvertes et à décourager ce qu'on appelle « backstage maneuvering », les manœuvres dans les coulisses, quoi. Une autre possibilité, les règlements qui imposent une limite au nombre de mandats que peut servir un administrateur. J'y reviens parce que l'avantage, c'est qu'il y a un certain roulement au CA et de la relève, ce qui stimule non seulement des nouvelles idées, mais décourage la formation de cliques. Enfin, il ne faut pas oublier que le style de leadership de la présidence et de la direction donne le ton quand il s'agit de climat et de culture. Les leaders qui créent non seulement une atmosphère de respect et de compétence, mais qui trouvent aussi les moyens de créer des moments de détente et de démontrer leur appréciation sincère des bénévoles au CA, ces gens-là vont bâtir un bel esprit d'équipe. Qui n'aime pas se faire bien traiter ou de grignoter des petites gourmandises à un 5 à 7 à l'occasion ou de recevoir un compliment? De se détendre pour connaître un peu mieux ses collègues, franchement.
Oui, mais oui, il faut quand même avoir du plaisir, c'est malgré ça. Les responsabilités sérieuses.
Exact.
Oui. Alors, à la prochaine capsule, nous allons explorer la qualité des réunions.